Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série sur les animaux. Avec un texte de René Descartes et cette question. Peut-on réduire les animaux à des machines? À la fin du XVIe siècle, avec l'apparition des premiers automates, se développe une nouvelle vision des êtres vivants. Les plantes et les animaux n'ont pas d'âme, ce sont des mécanismes, des appareillages sophistiqués, œuvre du grand mécano divin. Voltaire lui-même l'énoncera en de célèbres alexandrins. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que l'univers existe et n'est point d'horloger. Mais bien avant lui, celui qui pense les animaux comme des machines, c'est René Descartes, selon qui l'homme seul est pourvu d'une intériorité en tant que chose qui pense, tandis que tous les autres êtres naturels ne sont que les choses étendues que l'on peut analyser comme des mécanismes. Et cependant, les animaux sentent, souffrent et nous regardent. Les réduire à une simple organisation de la matière inerte, c'est ignorer leur spécificité. Mais avant de rejeter la pensée de Descartes, écoutons-le et réfléchissons avec lui.
Le plus grand des préjugés que nous ayons retenus de notre enfance est celui de croire que les bêtes sont dotées d'une âme. La source de notre erreur vient d'avoir vu que plusieurs membres des bêtes n'étaient pas bien différents des nôtres pour la figure et les mouvements, et d'avoir cru que notre âme était le principe de tous les mouvements qui sont en nous. La principale raison, selon moi, qui peut nous persuader que les bêtes sont privées de raison, est que bien que parmi celles d'une même espèce, les unes soient plus parfaites que les autres, comme dans les hommes, ce qui se remarque particulièrement dans les chevaux et dans les chiens, dont les uns ont plus de disposition que les autres à retenir ce qu'on leur apprend, et bien qu'elles nous fassent toutes connaître clairement leurs mouvements naturels de colère, de crainte, de faim et d'autres semblables, ou par la voix ou par d'autres mouvements du corps, on n'a point cependant encore observé qu'aucun animal fût parvenu à ce degré de perfection d'user d'un véritable langage, c'est-à-dire qui nous marqua par la voix ou par d'autres signes quelque chose qui pût se rapporter plutôt à la seule pensée qu'à un mouvement naturel. Car la parole est l'unique signe et la seule marque assurée de la pensée cachée et renfermée dans les corps, ce que l'on peut prendre pour la véritable différence entre l'homme et la bête. Il faut pourtant remarquer que je parle de la pensée, non de la vie ou du sentiment. Car je n'ôte la vie à aucun animal, ne la faisant consister que dans la seule chaleur du cœur. Je ne leur refuse pas même le sentiment autant qu'il dépend des organes du corps. Ainsi, mon opinion n'est pas si cruelle aux animaux qu'elle est favorable aux hommes. Je dis à ceux qui ne sont point attachés aux rêveries de Pythagore, puisqu'elle les garantit du soupçon même de crime quand ils mangent ou tuent des animaux.
Fabrice Hadjadj, le plus grand des préjugés que nous ayons retenus de notre enfance est celui de croire que les bêtes sont dotées d'une âme. Quel est le contexte de ce texte ?
Ce texte est une lettre de 1649 de René Descartes à un de ses lecteurs anglais, Henry Moore, et il s'interroge bien sûr sur, plutôt Henry Moore l'interroge sur sa doctrine, de voir tous les corps, y compris le corps humain, comme mécanique, hein, voilà, et de n'attribuer finalement aucune forme d'intériorité, alors de pensée bien sûr, mais aussi d'âme, à tous ces êtres que l'on nomme les animaux, mais y compris d'ailleurs les plantes. Alors d'abord, il faut se souvenir d'une chose, que le mot « âme » dans la philosophie antique, celle d'Aristote, et donc durant tout le Moyen-Âge, y compris, je dirais, jusqu'au XVe siècle, hein, et n'est pas l'exclusive de l'homme. Hein. Tous les vivants ont une âme, parce qu'un être vivant est un être animé. Et l'animal, par définition, est animé. Donc comment l'animal n'aurait-il pas une anima ? Vous voyez, il y aurait une contradiction entre le mot animal et le mot, si on le privait d'une âme, puisque le mot âme se trouve dans son nom même. Alors, quand Aristote fait de la psychologie, hein, le mot âme en grec se dit psyché, eh bien la psychologie, c'est l'étude des plantes, c'est l'étude des bêtes, c'est l'étude aussi de l'homme, qui est un animal particulier, doué du langage. Donc, il va y avoir une élaboration autour de cette notion d'âme pour différencier les vivants des êtres non vivants. Ce sont des êtres animés. Or, qu'est-ce que c'est que cette animation ? Vous voyez, Descartes a tendance à voir l'animation comme le fait que les choses sont mises en mouvement. Mais quand apparaissent les premiers automates, on se dit, ben voilà quelque chose qui se met de soi-même en mouvement, mais ça n'a pas d'âme. Pourquoi vous allez chercher un principe qui est inutile ? Au nom de ce qu'en philosophie on appelle le rasoir d'Occam, hein, de ce nominaliste franciscain qui s'appelle Guillaume d'Occam, au Moyen-Âge, vous voyez, l'idée de ne pas faire intervenir des principes qui sont inutiles et qui complexifient le sujet. Ben voilà, évitons l'âme. Nous savons que l'homme pense, donc on peut appeler âme uniquement l'âme spirituelle, la pensée. On peut encore garder ce mot, si vous voulez, même si Descartes n'en fait pas trop usage, finalement. On peut parler de l'immortalité de l'âme, mais ce sera toujours l'immortalité, finalement, de l'esprit humain. Et de l'autre côté, on peut réduire les choses à des machines, les choses extérieures, les choses de la nature. Et cette réduction à des machines est liée, en plus, à Descartes, non seulement à la science, c'est-à-dire l'idée d'avoir une science géométrique qui permet de mieux comprendre les choses, beaucoup mieux que les sciences des anciens qui lui semblaient trop obscures, mais aussi c'est lié à un projet social et je dirais même charitable. Hein, dans la sixième partie du discours de la méthode, Descartes parle de connaissances qui seraient fortes, utiles à l'homme. L'enjeu, c'est que si on ramène, on en avait déjà parlé ici, hein, le vivant à une machine, eh bien, on va pouvoir le réparer. Et il y a toujours cette idée profondément aussi médicale, hein, thérapeutique chez Descartes, de mieux maîtriser les forces de la nature, de voir la nature comme un mécanisme pour pouvoir, après, mieux intervenir dessus et rendre le monde meilleur.
Fabrice Hadjadj, il y a une phrase un peu particulière. Ainsi, mon opinion n'est pas si cruelle aux animaux qu'elle est favorable aux hommes. Est-ce que pour sauver un peu la particularité de l'homme, il faut dévaloriser l'animal ?
Bah, c'est toujours le problème. Est-ce que l'enjeu d'abord de Descartes, comme nous on le fait post-cartésien, si j'ose dire, c'est de croire que Descartes veut affirmer la dignité de l'homme, la supériorité de l'homme, etc. J'en suis pas sûr. Hein. Alors, la phrase qui dit « mon opinion n'est pas si cruelle aux animaux qu'elle est favorable aux hommes », c'est pour dire « je dis que les animaux sentent, je ne dis pas qu'ils n'ont pas la vie ». Vous savez, il y a toute cette thèse où on réduit la pensée de Descartes des animaux-machines en disant « si c'est des machines, ils n'ont pas la vie hein. ». Bon. Ils ne sont pas vivants, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont vivants. D'où cette fameuse anecdote de Malebranche qui, disciple de Descartes, aurait donné un coup de pied à une chienne enceinte, vous voyez, il aurait entendu mugir de cela et il aurait regardé ça avec mépris en disant, voilà, ce sont que les grincements d'une machine. Bon, bien sûr que là, tout d'un coup, on se dit, quelle cruauté. Mais Descartes dit bien que sa théorie n'est pas cruelle. Et elle n'est pas cruelle parce que ce sont des machines très particulières. C'est-à-dire, la notion de machine permet d'expliquer l'animal pour lui et de le manipuler, si j'ose dire, comme on manipule le corps de l'homme, pour le soigner aussi, hein, c'est pas simplement, voilà, ou pour faire des meilleures espèces, bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est un automate fabriqué par l'homme. Et il y a ce problème chez Descartes, c'est que les animaux sont des machines divines. C'est-à-dire qu'elles ont été faites par Dieu. Alors, que veut dire machine divine ? Si vous dites machine divine, vous ajoutez un adjectif qui semble dire que c'est des machines vraiment pas comme les machines. Vous voyez, donc on ne sait plus où on en est. Puis la deuxième chose ici, c'est de dire, s'ils n'ont pas d'âme, s'ils n'ont pas de pensée, s'ils avaient une pensée, vous voyez, on ne pourrait pas les tuer. On ne pourrait pas les manger. Donc, c'est favorable aux hommes au sens où ma pensée légitime le fait que les hommes mangent de la viande. Ça, c'est très étonnant. Et il s'oppose aux rêveries de Pythagore, parce que Pythagore, qui était un penseur de la réincarnation, où des âmes venaient dans les animaux, des âmes humaines, des âmes spirituelles venaient dans les animaux, interdisait de consommer de la viande et imposait aux sages un régime végétarien. Donc là, il dit, moi je vous ai en plus donné une raison de ne pas culpabiliser quand vous mangez de la viande. En tout cas, vous n'êtes pas en train de tuer un esprit, d'arracher un esprit à son corps.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, les animaux ne sont-ils que des machines sophistiquées ? Fabrice Hadjadj, pour Descartes, est-ce que la différence fondamentale entre l'homme et l'animal se situe au niveau de la pensée ou de la parole ? Et est-ce que la parole, du coup, n'est la seule manifestation de la pensée, ou est-ce qu'il y aurait une autre manière par laquelle la pensée pourrait se manifester ?
C'est très intéressant de voir la finesse de Descartes, parce que on pourrait dire il impose des choses, c'est un idéaliste, les idées innées, enfin tout ce qu'on balance sur Descartes, et là on voit combien Descartes est un empiriste avant tout. Il va dire d'abord qu'il y a quelque chose qui est typique de l'homme, c'est la parole. Alors, qu'est-ce que c'est que la parole ? C'est pas la voix. Puisqu'il dit que les animaux pour lui, puisqu'il va appuyer sur les autres animaux, l'animal peut avoir une voix. Mais ça n'est pas une voix articulée. C'est la première chose. C'est une voix qui module, mais il n'y a pas ce phénomène de l'articulation. Ça, c'était une remarque que faisait Aristote. Et surtout, c'est ce qu'il va dire, la voix humaine et parole parce qu'elle est le signe d'une pensée, et non pas le signe d'un mouvement naturel. On pourrait, à ce sujet, reprendre la pensée d'Émile Benveniste, qui distingue, vous voyez, le langage humain et la communication animale. Donc l'homme, lorsqu'il parle, ne produit pas un signal qui implique un comportement, une réaction. Mais il produit un signe qui renvoie à des idées. Et il faut interpréter cette idée, il faut dialoguer avec celui qui parle, vous voyez. Et donc, il y a une réponse qui fait entrer dans un dialogue. Chez les bêtes, il y a des signaux qui impliquent des comportements. Le chien aboie pour signaler un danger, les autres chiens peuvent aboyer, vous voyez, par contamination, pour signaler le danger, pour lutter contre celui qui rentrerait dans le territoire, etc. Mais il n'y a pas, à proprement parler, de dialogue qui s'instaure. Il y a, on pourrait dire, des réactions en chaîne. L'idée de dialogue suppose qu'on n'est plus là pour conduire à une réaction efficace. D'ailleurs, c'est ça d'ailleurs, qui est derrière l'efficacité des animaux. C'est justement le fait que le signal est très clair, ne suppose pas d'interprétation et aboutit à un comportement qui est une réaction qui est adéquate. Ce système signal-comportement, ça marche très très bien. Chez nous, ça ne marche pas parce qu'on dit un truc, qu'est-ce que tu as voulu dire par là, et on voit bien qu'il y a derrière ce qu'on appelle la pensée. Et vous voyez, j'ai accès à mes propres pensées, à travers d'ailleurs la parole, mais je n'ai pas accès à votre pensée, Galdric. Qu'est-ce qui me fait voir que vous êtes un être pensant ? C'est là où je dis que Descartes est un empiriste. C'est qu'il dit, vous parlez. Vous parlez, donc je peux... alors, vous voyez, celui qui dit, mais tu sais pas, peut-être que ton chien pense. Vous voyez, il y a des moments où tu le vois devant la cheminée, au moment où il digère, si tu regardes son regard ou les petits couinements qu'il fait comme quand il rêve, peut-être qu'il a des pensées profondes. Descartes dirait, c'est des aspects mécaniques, plus profonds que ce que nous pourrions faire nous-mêmes par des machines, puisque c'est des machines divines, Mais pourquoi lui attribuer la pensée? S'il avait la pensée, il l'exprimerait, il le manifesterait par une voix articulée. Ton chien écrirait ses mémoires. Il y aurait des bibliothèques canines. Il y aurait des... Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Oui, mais peut-être que c'est parce qu'il lui manque... Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'il lui manque les moyens. Un homme, on a vu des hommes paralysés qui ne pouvaient bouger qu'une seule paupière, ils ont réussi à écrire des livres. Bon, alors comment est-ce que c'est... Donc, ce n'est pas une question de moyens. Oui, mais alors, oui, alors pourquoi le chien? Pourquoi pas la plante? Alors, attribue la pensée à la plante. Peut-être que la pierre, le caillou, est une sorte de sage tellement ascétique qu'il a renoncé de communiquer avec le monde parce qu'il a une intériorité tellement profonde que ce qu'il a à nous dire n'est même pas digne d'entrer dans nos conversations profanes ou mondaines. Donc, vous voyez, à ce moment-là, on part dans le fantasme. On est dans un pur fantasme. Voilà l'idée de Descartes. Donc, vous voyez, la parole est l'unique signe, la seule marque assurée de la pensée cachée et renfermée. Mais l'idée, quand même, de Descartes, c'est que la pensée est cachée. Et quand je suis en face de vous, Galdric, votre pensée est cachée, je ne vois pas votre pensée. Mais j'ai des signes qui sont des signes linguistiques. Et là, voyez, on voit un Descartes qui est un Descartes empiriste. Maintenant, est-ce qu'on peut pour autant réduire l'animal à une machine? Vous voyez, ça c'est la grande question. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut défendre Descartes et il faut comprendre l'enjeu de cette pensée.
Fabrice Allal, justement, venons-en à cette partie problématique. Déjà, si la vie n'est... Enfin, peut-on réduire, justement, définir la vie simplement par un ensemble de rouages mécaniques? Il parle de la chaleur du cœur, quand même, donc il y a quand même un principe intérieur. Et il y a le sentiment, il y a la mémoire. S'il ne s'appuie pas sur l'âme, sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Est-ce qu'il n'y a pas là, déjà, dans le propre texte de Descartes, une limite à sa propre pensée?
Il y a une double limite. D'abord, il y a cette première limite, la notion de machine divine. Ça veut dire que... Et cette notion de machine divine, elle est doublement limitée, d'une part, parce que... qu'est-ce que ça veut dire divin, ici? Alors, est-ce que ça veut dire que c'est plus une machine, finalement? C'est une machine pas faite par la main de l'homme, mais par la main du Créateur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut encore parler de machine? Il y a une telle disproportion entre l'homme artisan et Dieu créateur. Vous voyez, donc là, il y a un premier problème. Il y a un second problème de ce côté-là, c'est que la notion de machine est une notion utilitaire. C'est-à-dire que quand on fabrique une machine, c'est pour telle ou telle chose. Et d'ailleurs, la machine porte souvent le nom de son utilité. Un outil, le tournevis, bon, voilà, quoi. La montre est là pour nous montrer l'heure. On sait à quoi ça sert. Donc la notion de machine est une notion hyper finaliste et hyper utilitaire. Or voilà que Descartes va nous dire, nous ne savons pas la finalité des choses dans la nature et on ne sait pas à quoi, je ne sais pas, l'orang-outan sert, ou le serpent sert. Vous voyez, c'est pas utile, on n'est pas dans l'ordre utile. Donc là encore, la notion de machine est transposée de manière très très étonnante. Comment peut-on parler de machine quand on a une chose qui n'est pas fabriquée par l'homme et dont on ne sait pas l'utilité, alors que c'est par définition le sens de la machine. Bon. Donc ça, c'est un premier point et c'est une première problématique majeure intrinsèque à la pensée de Descartes. Maintenant, en vue de l'extérieur, on voit qu'effectivement, il parle de la chaleur du cœur. Il ne nie pas que les bêtes puissent avoir des sentiments. Et je me dis que finalement, le mécanisme chez Descartes n'est pas aussi brutal ou froid que nous pensons le mot mécanisme. Je crois qu'il y a quelque chose chez Descartes où il faut quand même lui faire crédit qu'il a une vision de la machine ou qui est capable, parce que c'est une machine divine, de sensibilité. Donc c'est des machines sensibles. C'est très très étonnant cette réflexion. Des machines vivantes, des machines sensibles. Mais il semblerait que, finalement, quand il parle de l'animal, il ne considère, puisqu'il parle de la chaleur du cœur, des battements du cœur, que de la force motrice. C'est-à-dire, l'automate a une force motrice en lui, et effectivement, il y a des forces motrices. Mais c'est pas ça une machine. Enfin, c'est pas ça un vivant. C'est pas simplement une force motrice. C'est un être qui arrive à connaître le monde par des sens, et donc il y a une certaine intériorité de l'animal. Quand on abordera un texte, par exemple, sur le monde intérieur de tel ou tel insecte, parce que l'insecte, ben, oui, il a tel ou tel capteur, il a une perception qui fait qu'il intériorise le monde, qu'il va répondre en fonction de cette intériorisation. Donc, on ne peut pas priver les bêtes d'intériorité. Ça, c'est un problème. Et si les bêtes n'étaient que des machines, à ce moment-là, on serait obligé de dire bah, rien ne différencie un robot, finalement, d'une bête. Et peut-être que le mieux, d'ailleurs, l'avenir de l'animal domestique, c'est d'avoir des robots de compagnie. Ce qui se fait d'ailleurs dans certains, enfin, au Japon. J'ai des grands doutes par rapport à ça, parce que nous avons, avec un chien, vous avez remarqué d'ailleurs, dans ce texte que nous avons lu, il y a une mise à part d'un homme qui est un cavalier français, peut-être un chasseur, hein, mise à part du cheval et du chien. Ah, ouais, ça, c'est... On est vraiment dans un monde particulier, celui de Descartes. Mais voyez, le chien, il n'a pas été construit pour une quelconque utilité. Il est au monde, au nom des hasards de l'évolution, et donc il partage avec nous le même destin. Au sens où, comme nous, on ne sait pas pourquoi il existe. Ouais. Ce n'est pas donné tout de suite. Ce n'est pas comme une machine, justement. Une machine, on sait pourquoi. Alors, si vous faites un chien artificiel... Un cyberchien, il est pour accomplir telle ou telle tâche, telle ou telle fonction, pour aider la personne âgée. Mais le chien, il est là. Il est au monde sans qu'on sache pourquoi. Il est le fruit de la même coévolution que nous. Et donc, l'amitié, il y a une solidarité destinale entre l'homme et la bête, et spécialement entre cette bête qui vit dans un continuum affectif avec l'homme, comme le chien, hein, exceptionnel. Qui fait que voilà, l'affection qu'on a pour un chien, c'est aussi une affection beaucoup plus profonde que celle qu'on peut avoir pour une machine. Même, c'est une affection à proprement parler, parce qu'il y a une co-affection, parce que nous sommes aussi pris, vous voyez, dans la même question d'être en vie. Alors que ce n'est pas la question d'être un mécanisme qui fonctionne.
Fabrice Hadjadj, est-ce que fondamentalement, le problème chez Descartes, c'est d'avoir... voulu sauver la définition de l'âme, ou trop réduire la définition de l'âme, et du coup de ne plus pouvoir attribuer aucune des fonctions internes que Aristote attribuait à l'âme animale, aux animaux?
Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, Descartes a rabattu l'âme sur la spiritualité, sur l'esprit, sur la pensée, et donc il a vidé la nature de toute forme d'animation, quoi. Je pense que la notion d'âme chez Aristote est très modeste, hein, il ne faut jamais oublier ça. L'âme, c'est d'abord ce qui se nourrit, par exemple. Et donc, il part d'un acte très élémentaire qui est la nutrition. Mais qu'est-ce que c'est que la nutrition, c'est ça? C'est pas la même chose que l'alimentation d'une machine avec un carburant, d'un ordinateur avec l'électricité. C'est tout autre chose. La nutrition, vous voyez, quand vous mettez pas d'électricité dans un ordinateur, il continue à exister. Vous pouvez le laisser éteint pendant très longtemps, il continue à exister. Vous reprenez votre voiture, vous l'avez pas roulé avec, il continue à exister. Mais un vivant, s'il ne se nourrit pas, il meurt, il se décompose. Le propre du vivant, c'est de renouveler sans cesse sa matière, sans quoi il disparaît. Et donc, c'est de tenir sa subsistance dans son opération. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, c'est-à-dire, je ne suis pas simplement, j'existe pas indépendamment de mon action, c'est mon action même qui porte mon existence. Donc, il y a dans tout métabolisme déjà une certaine forme d'autonomie par rapport à la matière. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre un vivant qui renouvelle ses cellules sans cesse, qui se nourrit sans cesse pour se renouveler, et justement sa forme. Voilà. Et c'est ça, c'est cette idée-là. C'est dans la nutrition même qu'apparaît l'âme chez Aristote. Et ça, on a l'impression que la nutrition est rabattue à l'alimentation d'une machine chez Descartes. Et c'est peut-être là, pas du côté de l'esprit, mais du côté de la notion simple de nutrition qu'il faut retrouver la notion d'âme.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec René Descartes, Fabrice Hadjadj, Geldric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.